Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens. Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans l'étude des évangiles à la lumière des Pères de l'Église, donc nous atteignons maintenant le sommet de l'évangile, à savoir la passion, avec le chapitre 21. Donc c'est un nouveau fichier sur le polycopier, le fichier qui contient tous les chapitres 21 à 25, en page 1. Nous allons encore une fois essayer de bien nous cacher en quelque sorte derrière les pères. C'est ce qu'il faut faire dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire surtout de l'interprétation de l'Écriture sainte, ne pas avoir d'idée personnelle sur le sujet. Se garder de toute nouveauté. Saint Pédis se disait bien que la racine de plus importante du modernisme après l'orgueil, c'était l'amour des nouveautés. Donc pas d'amour des nouveautés chez un catholique. Au contraire, on essaye de se cacher littéralement derrière l'interprétation des pères de l'Église pour rester justement dans l'esprit de l'Église, penser tel que l'Église a toujours pensé, et pour pouvoir penser tel que l'Église catholique a toujours pensé en matière d'exégèse, il faut tout simplement penser tel que les pères de l'Église ont pensé. Donc nous en sommes au chapitre 21 de Saint Matthieu, versets 1 à 9, page 1 du polycopier, chapitre 21 à 25. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, près de la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse, liée son ânon avec elle. Déliez-la et amenez-la moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, dites que le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les laissa emmener. Or, tout cela s'était fait afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que votre roi vient à vous plein de douceur, montez sur une ânesse et sur l'ânon de celle qui porte le joug. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Or une foule nombreuse étendit leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchaient le chemin. Et les foules qui précédaient Jésus et celles qui le suivaient, criez Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous savez que le mot Jérusalem étymologiquement veut dire la ville de la paix. Ça représente aussi la fille de Sion, parce qu'elle était construite sur le mont Sion. Donc, mais mystiquement, nous disent les pères, c'est l'église des fidèles qui appartiennent à la Jérusalem qui est au-dessus, celle du ciel. Et qu'on appartient à la Jérusalem terrestre, pour arriver à Jérusalem céleste. La Jérusalem terrestre, mystiquement parlant, c'est l'église d'ici-bas. Donc l'église militante. L'église militante, c'est l'église des soldats. Soldat en latin se dit miles. Donc l'église militante, c'est l'église de ceux qui se battent. Donc la Jérusalem terrestre de Palestine représente l'église militante et qui mène à la Jérusalem céleste qui est l'église triomphante. Sans oublier que en général le passage de l'église militante, la Jérusalem terrestre, à l'église triomphante, la Jérusalem terrestre, se fait par un passage par la Jérusalem souffrante, à savoir l'église, justement, l'église souffrante. On ne va pas au ciel en général sans passer par le purgatoire. Donc le Seigneur tire vers Jérusalem les gens partis de Jéricho. Donc Jéricho représente la terre d'ici-bas, le monde d'ici-bas. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et là, c'était la Jérusalem mystique dont il s'agissait. La Jérusalem dont descend cet homme qui tombe de Jérusalem en Jéricho, c'est l'homme qui perd l'état de grâce représenté par la Jérusalem et qui tombe dans Jéricho, c'est-à-dire dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi la ville de Jéricho représente-t-elle le monde moderne? Tout simplement parce que Jéricho était représenté par la lune, et la lune est une créature qui change d'aspect tout le temps. On parle d'une, pas de lune du tout, un quart de lune, demi-lune, un trois quarts de lune et une lune complète. Eh bien, le Jéricho représente donc ceux qui changent d'idée tout le temps. Une des caractéristiques du monde moderne, c'est l'instabilité intellectuelle, l'instabilité morale. Pourquoi? Parce que ce qui est derrière le monde moderne, c'est l'esprit démocratique. Et l'esprit démocratique, c'est le pouvoir du nombre. La démocratie n'ayant jamais été, contrairement à ce qu'on vous raconte, le pouvoir du peuple, mais le pouvoir du nombre. Or, le nombre change tout le temps. Il est très facile de modifier le nombre de gens pour ou contre une idée. Et donc, puisque le nombre change tout le temps, eh bien, conséquence, évidemment, pour le monde moderne, il n'y a pas de vérité. La vérité devient quelque chose de totalement subjectif. Donc le Seigneur tire vers Jérusalem les gens partis de Jéricho, c'est-à-dire qu'il attire à lui les gens qui viennent du monde et les convertit. Et en se convertissant à notre Seigneur Jésus-Christ, on quitte le monde pour arriver d'abord dans la Jérusalem terrestre, à savoir l'église militante, pour arriver à la Jérusalem céleste, qui est l'église triomphante, en passant par l'église souffrante, le purgatoire. Donc le Seigneur tire à lui vers Jérusalem les gens partis de Jéricho, prenant une grande multitude avec lui, chargée de beaucoup de marchandises, à savoir le salut des croyants qui lui sont confiés, qui l'ont été confiés. Il cherche alors à rentrer dans la cité de la paix, le lieu de la contemplation de Dieu. Donc le mot Jérusalem veut dire ville de la paix. Encore une fois, cette paix n'est pas du tout, dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, l'absence de conflits armés. J'ai parlé de ça dans un sermon que j'ai donné le premier dimanche après Pâques. Cette paix n'est pas du tout donc l'absence de conflits armés. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ordre qui est rétabli dans notre âme à partir du désordre provoqué par le péché originel. Le péché originel provoque une révolution dans l'âme. Un désordre, une révolution, c'est un peu la même chose. Toute révolution est un désordre. Eh bien, la révolution donc introduite dans notre âme fait que les passions vont vouloir se révolter constamment, comme des bêtes sauvages, si vous voulez, contre la volonté contre l'intelligence et l'intelligence contre Dieu. Et en tirant vers Jérusalem les gens partis de Jéricho, donc Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, va ramener la paix dans ces âmes. C'est pour ça qu'il les tire vers Jérusalem, qui est la cité de la paix. Au verset 1er, il est parlé de Bethphagé. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé. Alors, Bethphagé, la signification veut dire la maison de la mâchoire, la maison des mâchoires. Et notre Seigneur là s'arrête au mont des Oliviers où il y a la lumière de la connaissance et le repos des travaux et des peines. Mais le monde est opposé aux apôtres et il ne veut pas recevoir la lumière de leur enseignement. Donc il est intéressant de voir que notre Seigneur Jésus-Christ, qui arrive pour sa passion, il sait, il connaît tout, il est Dieu, il sait que la passion va bientôt commencer, et il s'arrête d'abord au mont des Oliviers, où il va revenir juste après avoir institué le sacrement de la Sainte Messe, le sacrement de la Sainte Eucharistie, le sacerdoce et l'épiscopat. Donc il vient d'abord au mont des Oliviers, à Gethsémani, tout en sachant très bien qu'il va y revenir bientôt pour y commencer sa passion. De là, le Seigneur va envoyer ses disciples du mont des Oliviers au village, où il guide les prédicateurs de l'Église primitive face au monde. Il envoie deux disciples, car il y a deux ordres de prédicateurs, disent les pères.
Il cite, saint Thomas cite saint Paul aux Galates, celui qui agit efficacement dans Pierre pour les rendre apôtres des circoncis, a aussi agi efficacement en moi pour me rendre apôtre des gentils. Donc Dieu va attirer à lui tout le monde. La volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Les circoncis d'abord, les premiers qui ont été appelés, et les incirconcis. Les circoncis, c'est quoi? Circoncis représente, le peuple des circoncis représente le peuple juif, le premier peuple appelé par notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que le peuple juif a été le peuple élu, mais jusqu'au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et au moment où le rideau du temple s'est déchiré en deux, l'Ancien Testament se termine en quelque sorte avec l'arrivée du Nouveau Testament, d'une nouvelle Église qui va transcender la religion juive, à savoir la religion catholique. N'oublions pas encore une fois que tous les premiers membres de l'Église catholique étaient pratiquement tous des convertis du judaïsme. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu aussi pour être l'apôtre des gentils. Les gentils, c'est les non-juifs. Saint Paul va être envoyé plus tard, après sa conversion, précisément pour la conversion des gentils. Notre Seigneur Jésus-Christ attire à lui tous les peuples. Ça, c'est très important. Il faut vraiment prier pour que le bon Dieu puisse appeler dans sa société religieuse, dans son église, dans son corps mystique, tous les hommes autour de nous. Et on voit très bien aujourd'hui, malgré la catastrophe morale du monde moderne, moi je le vois un peu tous les jours, on voit très bien à quel point le bon Dieu appelle maintenant de plus en plus des païens, des gens qui ont complètement oublié la foi catholique, qui ont été baptisés il y a 20, 30 ou 40 ans et qui reviennent vers le bon Dieu. Bon, c'est infinitésimal, c'est évident par rapport au nombre de gens qui se moquent complètement de Dieu, mais il y a très nettement un travail de la grâce. La grâce n'est pas infructueuse. La grâce n'est pas devenue infertile. Au contraire, la grâce est toujours là et travaille toujours avec les âmes. Le problème, c'est que le nombre d'âmes qui répondent à l'appel de la grâce est de plus en plus petit. Pourquoi ? Parce que je pense que ça vient en grande partie sur un plan naturel de la destruction de la famille, destruction du principe d'autorité. Les pères n'agissent plus comme pères, ne refusent d'agir comme chef de famille, avec toutes les conséquences que ça entraîne, parce que la perte de l'autorité du père entraîne la perte du respect pour le principe d'autorité. Le principe d'autorité, c'est Dieu. Et la deuxième raison, c'est une raison plus spirituelle, c'est l'apostasie du clergé, malheureusement. Le clergé de l'Église de Vatican II qui a littéralement apostasié complètement transformer l'homme en centre du monde au lieu de mettre Dieu au centre de ce monde. Donc il envoie 2 disciples qui représentent la prédication à la fois aux juifs et à la fois aux gentils. Le chiffre 2, d'après d'autres pères, donc c'est deux de ses disciples qui sont envoyés par notre Seigneur, ce chiffre 2 représente les préceptes de la charité. Charité à l'égard de Dieu et charité à l'égard du prochain. Ou les deux testaments, l'ancien ou le nouveau. Ou la lettre et l'esprit, la théorie et la pratique, la connaissance et les œuvres. L'ânesse, voilà, c'est intéressant, donc ils vont placer notre Seigneur Jésus-Christ sur un petit âne. Voilà le texte. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leur vêtement, le firent asseoir dessus. Donc que représente cette ânesse et l'ânon, donc l'enfant de l'ânesse? Mais l'ânesse est le symbole de la synagogue qui était sous le joug. Pourquoi? Parce que l'ânesse est un animal qui a été préparé par l'homme en quelque sorte, dans le sens qu'il est habitué à l'homme, il est habitué à porter le joug, il est habitué à porter des gens. Les ânes en Palestine sont habitués, étaient habitués par les hommes à porter les fardeaux, mais aussi à porter des gens. Et donc l'ânesse est le symbole de la synagogue qui est sous le joug, qui était sous le joug de la loi, mais ce joug a été brisé. Au contraire, l'ânon, qui par définition est un animal qui n'a jamais porté le joug, qui n'a pas encore porté de charge ni de personne, et est donc sauvage, il n'est pas encore apprivoisé. Donc l'ânesse, la mère, donc, qui est apprivoisée, représente la synagogue, parce qu'elle a reçu le joug de la loi juive, le joug de la loi de Moïse. Au contraire, l'ânon représente les gentils, car la nation juive est devant Dieu la mère des gentils. Il est évident que l'Église catholique vient de l'Église juive. Il ne faut pas non plus vouloir complètement séparer les deux. L'Église juive est en quelque sorte la racine qui a donné une tige, cette tige dont la fleur est notre Seigneur Jésus-Christ, cette tige c'est maintenant l'Église catholique. Donc avant notre Seigneur Jésus-Christ, les Juifs devaient suivre leur loi juive pour pouvoir se sauver. Ils étaient sauvés en fonction de leur foi à l'égard du Messie qui devait un jour arriver. Il est évident que maintenant que notre Seigneur Jésus-Christ a créé l'Église catholique, donc il a changé, il a transformé en quelque sorte l'Église juive qui a donné la fleur de l'Église catholique, il est évident qu'on ne peut plus sauver que l'Église juive, parce que justement l'Église juive refuse notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul à pouvoir apporter la paix et la vie. Donc ce texte est important. L'annonce « sauvage et pas encore apprivoisé » représente le peuple des gentils, car la nation juive est devant Dieu la mère des gentils. Donc saint Matthieu, qui écrivit son évangile pour les juifs, est le seul à préciser qu'un âne fut amené au Seigneur, pour bien montrer que la nation juive, si elle se repent, ne doit pas désespérer de son salut. Il faut prier pour la conversion des juifs, et n'oublions pas que selon saint Paul, un des signes de la fin des temps sera la conversion au moins d'une partie, d'un reste du peuple juif. Alors pourquoi est-ce que les hommes sont comparés à des animaux, ici l'âne et l'ânon? Ils sont comparés aux animaux à cause de leur ressemblance avec eux quand ils ne reconnaissent pas le Fils de Dieu. Donc, on a de commun avec les ânes certaines choses. Les ânes et les hommes ont tous les deux une âme végétative et une âme sensitive. Bien sûr, sur le plan philosophique, un âne est vivant. Un homme est vivant. Donc, tous les deux ont une âme. Donc l'âme de l'homme est aussi une âme végétative parce qu'elle donne la vie. Comme un arbre qui est vivant, un âne qui est vivant, une ânesse ou un ânon sont des êtres vivants, et donc ils ont une âme végétative. Ils ont aussi une âme sensitive. Si vous tirez sur la queue d'un cheval ou d'un âne, il va braire parce que vous lui faites mal. Bon, et ça aussi c'est commun avec l'homme. L'homme aussi a une âme sensitive, mais l'homme ayant été créé à l'image de Dieu a quelque chose de supplémentaire, à savoir une âme raisonnable, une âme intellectuelle. Et cette âme intellectuelle a pour objet le vrai. Et ça, évidemment, un ânon, un âne, une ânesse, un arbre, un chat sont absolument incapables de ça. C'est pour ça que un animal sans raison est incapable de comprendre quoi que ce soit. Donc il faut éviter, pour nous catholiques surtout, qui avons compris ces choses-là, d'utiliser ce terme de compréhension en parlant des animaux. Mon chat comprend très vite les choses. Il comprend rien du tout parce qu'il n'a pas d'âme intellectuelle. Mon chat est très intelligent. Il n'a aucune intelligence puisqu'il n'a pas d'âme intellectuelle. Il a certains réflexes de Pavlov, il a certains instincts plus ou moins développés, mais il n'a aucune intelligence. Donc les hommes représentent, lorsque un homme vit dans le péché mortel, c'est ce que veulent dire les pères, lorsqu'un homme vit dans le péché mortel, ils perdent en quelque sorte leur faculté intellectuelle. Ils se mettent à agir comme s'ils n'avaient qu'une âme sensitive et une âme végétative. Donc ils redescendent à ce moment-là au niveau des animaux. Ce que disent les pères, les hommes sont comparés aux animaux à cause de leur ressemblance avec eux quand ils ne reconnaissent pas le Fils de Dieu. C'est évident que quand on dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu par son âme intellectuelle, pas par son corps. En français, lorsqu'on parle du mot âme, en général, on désigne toujours l'âme intellectuelle. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'un homme vit dans le péché, en quelque sorte, il perd la faculté intellectuelle de son âme et il se rabaisse au niveau des animaux. L'âne est impur pour le juif, incapable de raisonner, stupide, ignoble, bête de somme. Tels étaient les hommes avant l'arrivée du Christ, impurs par diverses passions. Ce qu'il faut rajouter, c'est que les hommes n'étaient pas seulement comme ça avant l'arrivée du Christ, parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu créateur et rédempteur, mais nous devenons nous-mêmes de nouveau comme ces ânes si nous vivons dans le péché. Une autre chose qu'il faut bien comprendre, j'en ai déjà parlé, mais j'insiste parce que je crois que c'est quelque chose que beaucoup de nos fidèles comprennent mal, c'est que un chrétien, un catholique, un ami du bon Dieu, un baptisé qui commet un péché mortel, fait beaucoup plus de mal au bon Dieu, beaucoup plus de peine au bon Dieu qu'un juif qui commet le même péché mortel. Pourquoi ? Parce que l'âme du catholique est marquée par le caractère du baptême, ce qui n'est pas le cas de l'âme de la personne juive, à qui il manque justement ce sacrement de baptême. Il n'y a donc pas le caractère du baptême. Et ce caractère du baptême fait de nous des enfants de Dieu. Donc le bon Dieu, évidemment, souffre beaucoup plus lorsqu'un de ses enfants lui fait du mal que lorsque quelqu'un qui n'est pas encore un de ses enfants lui fait du mal. Mais le bon Dieu souhaite et veut que tous les hommes trouvent cette divine paternité, que tous les hommes deviennent les enfants du bon Dieu. Ce que je viens de vous dire est parfaitement exprimé par la magnifique oraison de la messe votive pour la propagation de la foi que vous trouvez dans vos missels si vous avez un missel bien complet. Voilà ce que dit cette oraison. Ô Dieu, qui voulez que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité, daignez envoyer des ouvriers dans votre moisson et leur donner d'annoncer avec confiance votre parole, afin que votre doctrine se répande et soit glorifiée, et que toutes les nations puissent vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, de volonté antécédente, c'est la théorie de saint Thomas, c'est l'explication de saint Thomas, notre Seigneur Jésus-Christ, de volonté antécédente, veut sauver tous les hommes, mais de volonté conséquente, il ne sauve que les hommes qui sont ses enfants, non pas simplement par image, mais aussi par ressemblance. Donc, lorsqu'une personne est baptisée, lorsqu'un bébé est baptisé, il prend l'image du bon Dieu et la ressemblance de Dieu, puisqu'il a à ce moment-là la vertu de charité en lui. Mais malheureusement, si cet enfant, ce bébé devient adulte et perd la grâce du bon Dieu par le péché mortel, il va perdre la ressemblance avec Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne peut sauver que les hommes qui ont, au moment de leur mort, leur âme en état d'image et de ressemblance avec Dieu. C'est ce que dit l'oraison. Vous qui voulez que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. Alors il faut prier, mes bien chers frères, pour tous ceux autour de nous qui justement n'ont pas cette connaissance de la vérité. Alors les pères de l'Église expliquent pourquoi les hommes qui vivent dans le péché ou les hommes qui n'ont pas cette ressemblance, cette image, qui n'ont pas été créés à la ressemblance de Dieu parce qu'ils n'ont pas l'état de grâce en eux, ils n'ont pas la vertu de charité en eux, pourquoi ils sont comparés aux hommes. Aux animaux, et plus exactement aux bêtes de somme. Et voilà ce que disent les pères, parce qu'ils sont sans raisonnement, car il leur manque la raison du verbe, l'usage correct de leur intelligence. Encore une fois, le bon Dieu nous a donné une intelligence, non pas pour qu'on fasse ce qu'on veut de cette intelligence, mais pour qu'on puisse soumettre cette intelligence au vrai. Deuxièmement, les hommes sans le bon Dieu sont stupides, parce qu'ils méprisent Dieu, ils sont ignobles, car oubliant leur naissance céleste, ils deviennent esclaves de leurs passions et des démons. Et en page 2, ils deviennent simples bêtes de somme parce qu'ils travaillent dur sous la masse d'erreurs placées sur leur dos par les démons ou les pharisiens. Et donc, pour pouvoir approcher du bon Dieu, il faut commencer par enlever de son dos le carcan, en quelque sorte, le joug qui nous fait suivre le démon. Le démon nous mène par le bout du nez par le péché. Lorsqu'une personne vit dans le péché mortel, bien malheureusement, elle devient enfant de Dieu. D'enfant de Dieu qu'elle était, pardon, elle devient enfant du démon. Alors les pères détaillent, en haut de la page 2 sur le polycopier, voilà ce qu'ils disent. Il est à noter que l'âne était attaché, lié par les chaînes d'une erreur diabolique, et donc sans liberté d'aller où il voulait. Donc les pères de l'Église même comparent l'âme qui vit dans le péché mortel, non seulement un agneau, à cause de le fait qu'il n'a pas de raisonnement, qu'il est stupide, qu'il est ignoble et qu'il est une simple bête de somme, mais il compare aussi souvent le pécheur qui vit dans le péché mortel et qui ne veut pas en sortir à un esclave. Pourquoi ? Parce que l'esclave n'est plus libre de ses mouvements. Il a autour de lui, autour de son cou, malheureusement, l'anneau de l'esclave. Il est réuni par une chaîne au mur pour la nuit pour être sûr qu'il ne s'évade pas. Il a perdu toute liberté. Donc voilà ce que disent les pères. De même, avant que de commettre un péché mort grave, nous sommes libres de suivre ou non le démon, mais après avoir commis le péché, nous sommes liés pour faire ses œuvres, et nous ne sommes plus capables de nous enfuir par nos propres forces, comme un vaisseau ballotté qui a perdu son gouvernail dans la tempête. Et donc la première des choses à faire pour retrouver l'amitié du bon Dieu, c'est évidemment de passer par la case confession. Confession tellement importante à cause de cela. Et c'est la grandeur du catholique. Le catholique a un pouvoir de se confesser qui n'a pas un non-catholique, parce qu'il faut être enfant de Dieu pour pouvoir se confesser. Je vous ai déjà, je pense, cité cette réflexion qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais jeune séminariste, de Mgr Lefebvre, qui avait repris un séminariste qui avait dit « Il vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique. » Et Mgr Lefebvre dit « Non, pas question, surtout pas, il ne faut pas dire ça, parce que le mauvais catholique, bien que mauvais, a en lui la marque du baptême, la marque du sacrement de baptême, le caractère du sacrement de baptême, qui fait qu'il a en lui, on appelle ça une puissance obédientielle, un retour à la grâce. Un retour à la grâce est possible. Alors que le protestant, qui n'est pas baptisé, n'a pas ce caractère de baptême. Il n'est pas enfant de Dieu. Et tant qu'il reste dans le protestantisme, tant qu'il reste dans l'erreur, il ne peut pas revenir au bon Dieu. Il n'a pas cette puissance obédientielle qui permet à son âme de retourner à la grâce. L'homme, par le péché, s'est donc coupé, disent les pères, de l'aide de la grâce divine et est incapable de suivre sa volonté. Il va donc suivre celle du démon. Si Dieu, de son puissant bras de miséricorde, ne le détache pas, il restera ainsi dans la chaîne de ses péchés jusqu'à la mort. C'est pourquoi le Christ dit à ses disciples, en parlant des deux ânes, « Détachez-les », c'est-à-dire, par vos enseignements, par vos miracles, libérez tous les juifs et les gentils et amenez-les-moi, convertissez-les à ma gloire. Donc c'est le texte. Donc notre Seigneur Jésus-Christ donc envoie à ses deux disciples, « Allez au village ». Vous trouverez là un ânesse lié et son ânon avec elle. Déliez-la. Il ne se contente pas de dire à ses deux disciples déliez les deux ânes. Déliez-les et amenez-les à moi. Ou amenez-moi l'ânesse, puisqu'il parle de l'ânesse. Déliez-la et amenez-la à moi. Pourquoi? Parce qu'un ânon n'est pas encore capable, physiquement parlant, de porter le poids d'un homme. Un âne peut le faire. Donc cette phrase des pères est très belle, c'est qu'il nous faut détacher les âmes du péché. Lorsqu'on détache l'ânon ou l'ânesse de son point d'ancrage, on les détache du démon qui les tenait à sa disposition. Et il faut, après avoir détaché les âmes du démon, les amener à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la seule personne capable justement de maintenir ces âmes dans l'état de grâce. Et en les amenant à notre Seigneur Jésus-Christ, on les convertit à sa gloire. Quand le Christ monta au ciel, troisième paragraphe de la page 2 du Polycopier, quand le Christ monta au ciel, il ordonna à ses disciples de délivrer les pécheurs de leurs péchés, et leur donne le Saint-Esprit. Une fois délivrés, faisant les progrès, tout en étant nourris de la divinité du Verbe, ils se rendent dignes d'être renvoyés à l'endroit d'où ils viennent, non pas pour retourner à leurs œuvres passées, mais pour prêcher le Fils de Dieu, et ce que le Christ a voulu dire, aussitôt, il les laissa emmener. Donc une fois qu'on s'est rapproché de notre Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'on a trouvé l'état de grâce, on peut à ce moment-là revenir vers le point de départ pour prêcher avec la grâce de Dieu, la force des sacrements, prêcher aux gens qui étaient avec nous auparavant, qui sont eux malheureusement restés dans le péché, pour qu'eux aussi puissent trouver la joie de la vérité. Quatrième paragraphe de la page 2. Par l'ânesse et son petit est montré le double appel parmi les gentils, car les Samaritains servaient avec une certaine idée de l'obéissance et sont représentés par l'âne, mais les autres gentils, sauvages et non apprivoisés, sont représentés par l'ânon. Donc j'ai déjà expliqué avec les pères que l'ânesse qui a porté le joug représente le peuple juif qui a porté le joug de la loi juive, de la loi de Moïse. Mais par contre, l'ânon qui lui n'a pas encore porté le joug représente le peuple des gentils, qui est un peuple nouveau-né en quelque sorte, qui n'a pas été habitué à porter le fardeau de la loi. C'est pourquoi le Christ envoie donc deux disciples pour libérer ceux qui sont liés par les chaînes de l'erreur. La Sainte Marie, d'ailleurs, retrouvera la foi par Philippe, Saint Philippe, et Corneille sera le premier fruit des gentils amené par Pierre au Christ. Alors, qu'est-ce que vont faire les disciples? Donc, ils vont aller chercher cette ânesse et son petit. Ils vont détacher l'ânesse et l'ânon, puisque la prophétie disait « Voici que votre roi vient à vous plein de douceur, monté sur une ânesse et sur l'ânon de celle qui porte le joug. » Donc, à ce moment-là, les disciples amènent l'ânesse et l'ânon à notre Seigneur, mettent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Donc, notre Seigneur va s'asseoir sur l'ânesse. Et tous les gens, sur le chemin, vont accueillir notre Seigneur Jésus-Christ avec des cris de joie, vont couper les palmes, mettre des palmes sur le passage de notre Seigneur Jésus-Christ, vont même mettre, et même étendre leurs vêtements, dit le texte sacré au chapitre 21, verset 8, une foule nombreuse étendit leurs vêtements sur le chemin, et d'autres couper des branches d'arbres et enjonchaient le chemin. Alors, voilà l'explication des pères. Les apôtres mettent sur les animaux leurs vêtements, qui signifie l'enseignement des vertus, le discernement des Écritures, ou encore la vérité des dogmes ecclésiastiques. Car sans cette instruction, le Seigneur ne peut s'asseoir sur ses animaux. Donc il a besoin de mettre justement les vertus dans le cœur de ceux qui vont le suivre. Moralement parlant, anthropologiquement parlant, on cite Saint Rémy, le Seigneur assis sur l'âne se dirige vers Jérusalem, car présidant la Sainte Église et les âmes des fidèles, il les guide dans cette vie, et après cette vie, les conduit pour voir le céleste pays. Donc il va les chercher, j'ai déjà expliqué, il va les chercher en Jéricho et les amène à Jérusalem. Donc les apôtres et les autres maîtres placèrent leurs vêtements sur l'âne quand ils donnèrent aux gentils la gloire qu'ils avaient reçue du Christ. La foule étend ses vêtements sur le chemin, quand les croyants de la circoncision méprisent la gloire qu'ils avaient par la loi. Donc les apôtres, les juifs qui se dépouillent de leurs vêtements pour les placer sous les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, représentent donc tous ceux qui abandonnent en quelque sorte leur volonté propre pour suivre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. La première chose qu'on doit faire pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abandonner sa volonté propre. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a bien dit, celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il se méprise lui-même et qu'il me suive. Donc en suivant sa volonté propre, on ne peut pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Cette volonté propre est représentée par les vêtements qu'on enlève de nos épaules. À ce moment, on se détache de sa volonté propre et on place cette volonté propre sur le passage de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse marcher littéralement sur cette volonté propre, l'écraser et placer à ce moment-là sur nos épaules un nouveau manteau, un manteau de la volonté divine, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va donc nous couvrir à la place de l'ancien manteau qui représentait la volonté humaine, la volonté propre. La volonté de Dieu remplace donc celle que nous avions auparavant. Alors, voilà ce que disent les pères, toujours Saint Rémy, les apôtres. Donc j'ai déjà expliqué ça. Donc les apôtres placent leurs vêtements sur l'âne quand ils donnèrent aux gentils la gloire qu'ils avaient reçue du Christ. D'accord. Ils coupèrent des branches d'arbres, car ils avaient entendu la bouche des prophètes que la branche verte était l'emblème du Christ, l'arbre par excellence. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ aux Saintes Femmes de Jérusalem lorsqu'il portait sa croix, en chemin de croix. S'il traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? C'est-à-dire que si le bois vert est écrabouillé pendant sa passion et brûlé littéralement par le feu des méchants, qu'en sera-t-il du bois sec qui brûle encore plus vite? Donc notre Seigneur Jésus-Christ est représenté, si vous voulez, par la vie, la verdure de l'arbre, l'arbre qui est encore plein de vie, l'arbre vert qui est réuni à la racine, et qui donc peut donner des fleurs et du fruit. Un arbre qui est coupé, une branche d'arbre qui est coupée de sa racine, ne peut plus donner de fleurs, ne peut plus donner de fruits. C'est un arbre qui devient stérile. Au contraire, l'arbre vert qui représente notre Seigneur Jésus-Christ est un arbre qui, par définition, n'est pas stérile et va donner des fleurs et des fruits. les fleurs et le fruit, eh bien les fruits par exemple, les fleurs et les fruits sont représentés par justement les catholiques qui deviennent les nouveaux enfants de notre Seigneur Jésus-Christ, les enfants de la Nouvelle Alliance. Cette foule représente aussi, disent les pères, les martyrs qui offrirent leur corps pour le Christ, corps qui sont les habits de leurs esprits et qui sont soumis à l'âme par l'abstinence. Le Christ vient au nom du Seigneur, car dans toutes ses bonnes œuvres, il n'a pas cherché sa propre gloire, mais la gloire de son Père. Rappelez-vous ce que disent que chantent les gens à Jérusalem. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Vous savez que cette phrase est reprise pratiquement telle qu'elle, à la fin de la préface, lorsqu'on chante le Sanctus. Le chant du Sanctus, c'est ça, c'est ce chant va répéter pratiquement les mêmes paroles. Voilà ce texte. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de votre gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Mais ce Sanctus clôt la préface juste avant le début du canon de la messe. Pour vous expliquer aussi ce que doit ressentir un catholique face justement à cette arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, je voudrais vous lire la magnifique préface du Christ roi. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire que toujours et partout nous vous rendions grâce, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, qui avez oint d'une onction d'allégresse votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre éternel et le roi de l'univers, pour que s'immolant lui-même sur l'autel de la croix, victime sans tache et pacifique, il accomplit le mystère sacré de la rédemption des hommes et que soumettant toutes les créatures à son empire, il remit à votre infinie majesté le royaume éternel et universel, le royaume de vérité et de vie, le royaume de la sainteté et de la grâce, le royaume de la justice, de l'amour et de la paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations et toute la milice céleste, nous chantons l'hymne de louange à votre gloire, disant sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». On trouve les mêmes idées qui s'adaptent tout à fait à ce passage de l'Évangile que nous méditons ensemble à la préface de la Passion et de la Croix. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire que toujours et partout nous vous rendions grâce, Seigneur Saint, Père et Tout-Puissant, Dieu éternel, vous qui avez placé le salut du monde dans l'arbre de la croix, pour que ce qui avait été à l'origine de la mort devint la source même de la vie, et que celui qui avait triomphé par le bois y trouva aussi sa ruine. Par le Christ notre Seigneur, par qui les anges louent votre majesté, les dominations l'adorent, les puissances la craignent et la révèrent, les cieux, les vertus des cieux, et les bienheureux séraphins la célèbrent ensemble dans une commune louange. Daignez ordonner, Seigneur, que nos voix suppliantes chantent, puissent se mêler au leur et chanter Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les cieux et la terre sont remplis de votre gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Donc, ce passage est important. Donc les pères précisent ensuite, donc ils coupèrent ces branches d'arbres, car ils avaient entendu de la bouche des prophètes que la branche verte donc était l'emblème du Christ, l'arbre par excellence. Ils cherchent et dirent les exemples des saints pères pour leur salut, celui de leurs enfants. Donc l'âme en état de grâce est représentée aussi par l'arbre vivant. Et au contraire, l'âme en état de péché mortel est représentée par la branche qui est coupée du tronc, coupée de la racine. Un arbre mort représente une âme qui est définitivement perdue à Dieu. On est définitivement perdu à Dieu uniquement quand on est, après la mort, tombé en enfer. L'âme qui vit dans le péché est représentée par la branche morte, mais plus exactement la branche séchée qui est encore sur l'arbre. Elle est sèche, elle ne donne plus de fruits, plus de fleurs, mais elle n'est pas encore morte. Elle est sèche. Elle est sèche parce que la sève qui apporte la vie ne passe plus. Et donc évidemment, comme la sève ne passe plus, eh bien cette branche ne peut plus donner de fruits. Et si au contraire l'obstacle est enlevé, en général pour une bonne confession, la sève spirituelle va pouvoir repasser et de nouveau vivifier cette branche qui était comme endormie, asséchée, et donner à cette branche asséchée la lumière et de la vie spirituelle. pour qu'elle puisse, cette branche puisse de nouveau donner des fruits et des fleurs. Donc, cette foule, disent les pères, représente aussi les martyrs qui offrirent leur corps pour le Christ, corps qui sont les habits de leur esprit, qui sont soumis à l'âme par l'abstinence. Donc le Christ vient au nom du Seigneur, car dans toutes ses bonnes œuvres, il n'a pas cherché sa propre gloire, mais la gloire de son Père. Ensuite, donc, les pères expliquent davantage, le Christ, dans son entrée triomphale, voulut passer par la vallée de Josaphat, pour avertir qu'il y passera de nouveau au jour du jugement formidable de tous les hommes. Tous les pères de l'Église disent la même chose, que à la fin du monde, lorsqu'il y aura la résurrection générale de tous les hommes et le jugement général, ce jugement général aura lieu dans la vallée de Josaphat, pour que notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse être de nouveau publiquement proclamée et reconnue par tous. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va juger tous les hommes dans la vallée de Josaphat, qui est la vallée dans laquelle il a été condamné à mort. C'est pour cela que la ville de Jérusalem va être la ville du jugement général à la fin des temps, parce que c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ a été publiquement vilipendé, méprisé, torturé et mis à mort par les Juifs et par tous ceux qui vivent dans le péché mortel. Et n'oublions pas, encore une fois, que lorsque je vis dans le péché mortel, eh bien, je crucifie de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon âme. Donc ici, notre Seigneur chevauche à travers la vallée vers Jérusalem comme son seigneur et roi pour prendre possession de son royaume, qu'il amènera à une glorieuse consommation le jour du jugement. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, qui s'avance vers Jérusalem pour y être crucifié, entraîne derrière lui toutes les âmes qui vont accepter de reconnaître sa royauté sociale. Saint Hilaire et Saint Bède, le Vénérable, pensent que les deux disciples envoyés par le Christ étaient Saint Pierre et Saint Philippe. Bon, je pense que ce n'est pas reconnu par tous les pères, puisque Origène et Théophylacte pensent que c'était Saint Pierre et Saint Paul, car l'un deviendra l'apôtre des Juifs, donc des circoncis, et l'autre l'apôtre des gentils, l'apôtre des saints circoncis. Alors d'autres explications qui sont magnifiques chez les pères, au sens anthropologique, c'est-à-dire au sens moral. Donc Saint Pierre d'Amiens applique donc toutes les circonstances de cette journée à la conversion du pécheur. Bethphagée signifie la maison de la bouche et la compréhension des prêtres qui représentent la confession. Donc le prêtre va utiliser sa bouche pour donner l'absolution à un pécheur qui utilise sa langue lui aussi pour accuser ses péchés. Donc, dans les deux cas, il faut que d'une part le confesseur, d'autre part le confessé, utilisent leur langue pour louer notre Seigneur Jésus-Christ, le confesser en avouant ses péchés avec la contrition, l'accusation, la réparation dans son esprit, et le confesseur en donnant l'absolution, je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Christ arrive car il enflamme le cœur pour obtenir une bonne confession. Le village qui est à l'opposé du Seigneur et de ses disciples est l'esprit obstiné courbé sur sa volonté propre. Et on retrouve la même chose, c'est-à-dire cette volonté propre qui empêche le travail de conversion. Les deux disciples envoyés sont l'espérance et la crainte de Dieu qui est le principe, le début de la sagesse. La crainte de Dieu, attention, il faut bien comprendre que la crainte de Dieu n'est pas le fait d'avoir peur de Dieu, pas du tout. La crainte de Dieu, c'est de craindre d'offenser Dieu. La mort spirituel commence quand on perd la crainte d'offenser le bon Dieu. On perd cette crainte d'offenser le bon Dieu, ça veut dire qu'on a perdu la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc il n'y a plus de moyen de salut. C'est Monseigneur Lefebvre qui nous disait souvent, avec raison, que des pires choses qu'avait faites le Vatican II, le Concile Vatican II, c'est d'avoir détruit la crainte de Dieu, d'avoir supprimé la crainte de Dieu. Mais comme la crainte de Dieu est le début de la sagesse, en supprimant la crainte de Dieu, on a supprimé la sagesse. Vous voyez, donc le plus petit des dons du Saint-Esprit, la crainte de Dieu, est nécessaire pour obtenir le plus grand, savoir le don de sagesse. L'âne et le poulain, donc l'ânesse, attachés sont l'humilité et la simplicité. L'esprit humain sont parfois ce que sont l'humilité et la simplicité. L'esprit humain sait parfois ce que sont l'humilité et la simplicité et qu'il doit vivre humblement et simplement. Mais il attache ces deux vertus et les pousse sur le côté car il refuse d'en vivre. C'est une chose de connaître ce qu'est l'humilité et la simplicité, c'en est une autre d'en vivre. Vous pouvez connaître par cœur la définition de l'amour du bon Dieu, mais si vous ne gardez pas la charité en vous, votre définition de l'amour du bon Dieu ne vous aide en rien. Vous pouvez connaître par cœur les commandements du bon Dieu, mais si vous ne vivez pas selon ces commandements, vous perdez son temps, vous perdez votre temps. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la volonté du bon Dieu pour la mettre en pratique. Donc, je reprends cette phrase. L'esprit humain attache ces deux vertus, donc l'humilité et la simplicité, mais les pousse sur le côté car il refuse d'en vivre, car il est terrifié par la crainte qui le menace de tourment quand il veut s'éloigner du mal. L'espérance, en bas de la page 2, réconforte quand on se repent avec la promesse des récompenses et l'âme est alors assaillie et troublée par le démon. L'âne et le poulain sont détachés quand le pécheur rencontre le Seigneur sur la route de Bethphagée et confesse alors qu'il a péché, promettant de vivre désormais humblement et simplement. Donc notre Seigneur est sur la route de Bethphagée, il est sur la route du calvaire, qu'est-ce qu'il va y faire? Il monte au calvaire pour y être crucifié. Donc si je confesse que j'ai péché, il faut que je suive notre Seigneur Jésus-Christ, pas simplement notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, attention. Donc il faut que nous aussi, nous participions directement à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la mesure où on participe à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons garder en nous la vertu de charité. La charité, c'est quoi? C'est l'amour du bon Dieu. C'est donc l'amour de la croix. Passons à la page 3 sur le polycopier. Donc celui qui était une forteresse du démon, parce qu'il vivait dans le péché, devient Sion, la cité de notre force. Et le Seigneur y est placé comme un mur et un rempart. Le mur est l'humilité, le rempart la patience. Donc on voit très bien dans tout ce que disent ici les pères, quand ils parlent de ces vertus, de l'espérance, de la crainte, de l'humilité, de la patience, que ce qui détruit justement toutes ces vertus, qui sont des vertus passives, c'est le péché d'orgueil. Le péché d'orgueil. Péché d'orgueil, justement, qui va pousser de plus en plus l'homme à se passer de Dieu et à se croire, se mettre à la place du bon Dieu. Il ne faut pas oublier que la révolution dans les cœurs, elle travaille aussi par le mépris de ses vertus passives, à savoir l'humilité surtout, et toutes les vertus qui découlent de l'humilité. Rappelez-vous que c'est le pape Léon XIII qui, je crois, en 1892, avait condamné ceux qui pensaient qu'il fallait mettre en valeur constamment les vertus dites actives et qu'on pouvait mépriser les vertus passives qui ne servaient à rien. Donc c'est ceux, en quelque sorte, qui poussent à fond la vie active et qui méprisent la vie contemplative. Et il avait appelé cette hérésie, parce que c'en est une, l'américanisme, parce que c'est malheureusement quelque chose qui était très très fréquent outre-Atlantique, aux États-Unis, qui est toujours très fréquent. Donc le Christ, qui pendant 3 ans avait toujours voyagé à pied, traversa toute la Judée, montrant qu'il était le roi de la Judée, le Messie, le fils de David. Il entre donc à Jérusalem, la métropole de Judée, avec une pompe royale. Mais il ne chevauche pas un cheval harnaché avec splendeur, dans un carrosse doré, accompagné d'une multitude de nobles chevaliers resplendissants dans leur robe pourpre au son des trompettes, comme les font les rois de la terre. Pourquoi? Parce que le monde, c'est l'orgueil. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'humilité. C'est pour ça qu'il ne va pas chevaucher un noble destrier, il va chevaucher un petit âne, une ânesse. Donc, un équidé qui n'a pas une dignité particulière, pour bien montrer l'importance de la vertu d'humilité qui ouvre le cœur du bon Dieu et qui ouvre notre cœur. Donc, mystiquement parlant, ces choses sont vraies dans l'Église chrétienne, qui est comme Jérusalem et la fille de Sion, la vision de paix qui se réjouit toujours avec le Christ. Rappelez-vous que Jérusalem signifie justement la vision de paix. Le Sauveur veut faire usage de ces deux animaux pour signifier qu'il doit régner non seulement sur ceux à qui il a été promis, les Juifs, mais aussi sur les deux sortes de peuples rencontrés dans le monde. Les Juifs, accoutumés à porter le joug de la loi mosaïque, représenté par l'âne, et les gentils qui vivent jusqu'à aujourd'hui sans la loi du bon Dieu, donc ils n'ont pas porté le joug de la loi, à savoir qui sont représentés par l'âne. Dans les deux cas, que ce soit l'âne, le peuple juif, ou l'âne, le peuple des gentils, les deux peuples sont appelés à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour donner une idée de ce que sera son royaume, le Christ qui dirige et instigue tout unit la pauvreté et l'humilité, et c'est pourquoi il chevauche un âne, animal humble et méprisé. Donc l'humilité est à la base de tout. C'est pour ça que les conversions sont difficiles aujourd'hui. Parce que le monde moderne est un monde qui plonge dans l'orgueil à longueur de journée. Le monde moderne, c'est quoi? C'est la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil. Cet orgueil qui va pousser à fond la concupiscence des yeux pour pouvoir tout posséder, ou croire pouvoir tout posséder, la concupiscence des péchés d'impureté, concupiscence de la chair, justement, parce que ces trois choses sont liées. Et c'est pour ça que les conversions sont tellement difficiles, parce que la première condition, quand on veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'arrêter d'aimer et de servir les choses de ce monde. Et comme les choses de ce monde sont partout dans notre maison, dans notre âme, et bien si on veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faudra peut-être commencer à faire un peu de lessive, nettoyer un peu la maison et mettre dehors pas mal de choses. Il est évident que quelqu'un qui veut se convertir ne peut pas se convertir en gardant en son âme le même amour des choses mondaines qu'il avait avant sa conversion. Alors là, il y a un très beau passage, donc au milieu de la page 3 du polycopier, qui explique que notre Seigneur Jésus-Christ voulut orner son entrée royale dans Jérusalem par cette pompe inhabituelle pour plusieurs raisons. D'abord, disent les pères, pour donner une indication de son pouvoir royal et sa magnificence, car les Juifs pensaient qu'il apparaîtrait de cette manière comme un autre Salomon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ entre comme roi. Il est célébré comme roi. Et lorsque Pilate va lui demander « Êtes-vous roi ?», il va répondre « Oui, vous l'avez dit, je le suis, je suis roi. » Notre Seigneur Jésus-Christ est roi parce qu'il est, il est créateur, il est roi parce qu'il est rédempteur. Rappelez-vous le texte de Pion dans son encyclique Quas Primas sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est roi par nature parce qu'il est créateur, et il est roi par droit de conquête parce qu'il est rédempteur, et mourant sur la croix pour chacun d'entre nous, il a acheté un titre de propriété sur nous. Donc nous lui devons respect et obéissance. Donc il agit de telle manière qu'il va donc montrer aux Juifs que le royaume du Messie était un royaume spirituel plutôt que temporel. Pourquoi? Parce que les Juifs attendaient tous une restauration d'un pouvoir temporel de notre Seigneur. Quand donc, Seigneur, allez-vous rétablir le royaume d'Israël? Ils n'avaient pas compris que notre Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord pour rétablir son royaume dans les âmes. Mais il veut aussi rétablir, évidemment, son royaume, attention, ici-bas sur la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le dogme qui le dit, et c'est qu'on appelle la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la société. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société, attention. Il n'est pas simplement roi des âmes, comme le disent beaucoup de modernistes, et beaucoup parfois de nos amis catholiques traditionnels. Il n'est pas simplement roi des âmes, il est aussi roi des corps, il est aussi roi des sociétés. Donc il a son mot à dire dans la vie politique du pays, bien entendu, parce que la vie politique touche à la moralité. Si la politique d'un pays est complètement oblitérée par le péché, eh bien, il est évident que les âmes qui vivent dans ce pays ont un mal fou à se sauver. Comment vous sauvez, il faut bien avouer ce qui est. Ça va quand même être plus facile pour un Français de se sauver au temps de Saint-Louis que de se sauver au temps de M. Macron, comme pas la même chose. C'était plus facile de se sauver au temps d'un Saint-Pédis que de se sauver au temps où un usurpateur comme Bergoglio est sur le trône de pierre. Donc il voulait que tous ces notre Seigneur voulait donc que tous ces faits soient prophétisés par Zacharie, donc l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur le petit sur un âne, de peur que les Juifs ne méprisent leur roi quand celui-ci viendra sans la pompe royale. Donc il les a prévenus par les prophéties. Deuxièmement, le Christ se présente lui-même aux scribes, aux pharisiens dans son entrée royale à Jérusalem pour qu'ils puissent le reconnaître comme le Messie tel que prophétisé par Zacharie. Troisièmement, il voulait correspondre à l'agneau pascal qui devait être apporté avec grande pompe dans la cité le dixième jour du premier mois pour y être sacrifié le quatorzième jour. Or, le Christ, c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il entra à Jérusalem le dixième jour, le jour des rameaux. Il y entra en grande pompe sous les acclamations de la multitude, car il était certain de triompher de la mort, du péché et de l'enfer. Il va commencer sa passion le quatorzième jour, qui va aboutir à son sacrifice le vendredi saint. Donc son triomphe précéda la bataille, il entra triomphant dans ce combat. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, qui arrive à Jérusalem monté sur un âne, représente justement le roi des rois qui se présente comme le Messie et qui attire derrière lui toute la foule en leur demandant d'accepter de monter au calvaire avec lui. Malheureusement, il y a le quatrième point, qui est le point important, parce que j'ai mis ce point en caractère gras sur le polycopier. Donc, les pères expliquent que par cette action, notre Seigneur Jésus-Christ voulait ridiculiser la gloire du monde, car il savait que 5 jours après, il serait crucifié par ceux-là même qu'il avait honoré à son entrée dans la ville, et que ceux qui criaient maintenant « Hosanna au fils de David » seraient les mêmes qui, devant le siège de Pilate, hurleraient plus tard « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Il faut vraiment méditer sur cette phrase. Les mêmes personnes qui accueillent avec joie, en applaudissant, en coupant les branches d'arbres et en déposant sous le passage de notre Seigneur Jésus-Christ, qui enlèvent leur manteau pour faire une haie d'honneur, un passage magnifique à notre Seigneur Jésus-Christ, ces mêmes personnes seront 5 jours plus tard devant le palais de Pilate, sous son balcon, en train de hurler qu'il soit pourri, qu'il soit crucifié. Ça, c'est notre histoire à nous, hein. C'est pas simplement l'histoire des Juifs, attention. C'est aussi notre histoire. Nous aussi, nous sommes tentés d'oublier complètement toutes ces choses-là. Et c'est facile d'accueillir notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des Oliviers. D'accueillir notre Seigneur Jésus-Christ le jour des rameaux. Ça, tout le monde peut le faire. Mais porter la croix derrière notre Seigneur Jésus-Christ avec Simon de Cyrène, ça, c'est autre chose. On voit très bien, même chez Simon de Cyrène, quand il a été réquisitionné par les soldats pour porter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas tout à fait d'accord. Et petit à petit, il a compris, a reçu la grâce et a porté la croix par amour. Et nous, il faut qu'on fasse pareil. Il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, quand il rentre acclamé comme un roi à Jérusalem, mais il faut le suivre jusqu'au calvaire. Parce que le calvaire mène à la résurrection. Vous ne voulez pas du calvaire, vous ne voulez pas la résurrection, vous ne voulez pas de la résurrection, vous ne voulez pas de l'ascension, vous ne voulez pas de l'ascension, vous ne voulez pas de la montée au ciel. Attention. Et les pères citent Saint Luc. C'est Saint Thomas d'Aquin qui cite Saint Luc. Comme le Christ approchait de la ville de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Si tu connaissais toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, ce qui te procurerait la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. » Donc c'est la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, la catastrophe, la destruction de la ville de Jérusalem. Il vit par anticipation et prédit sa terrible punition, sa destruction par Titus et Vespasien. Vous savez qu'en l'an 71, Le Titus va détruire complètement la ville de Jérusalem. C'est un acte historique qui est parfaitement connu, puisque le célèbre historien Joseph, qui était juif, va en parler dans son histoire. Je vous rappelle un texte de Joseph, de l'historien Joseph, qui est très connu. Je vous le rappelle pour ceux qui l'ont un peu oublié. D'après l'historien Joseph, et il n'est pas le seul, tous les écrivains contemporains de son temps, 200 000 juifs moururent de faim pendant le siège de Jérusalem du 14 avril au 1er juillet de l'an 71. Près de 116 000 cadavres sortirent par une seule porte de la cité. 1 100 000 hommes furent tués dans la ville et 240 000 dans le reste de la Judée. Une forêt de croix s'élevait dans la campagne et le long des chemins où d'innombrables victimes expiaient le crime du calvaire. On ne saurait évaluer le nombre des esclaves qui furent alors emmenés à Rome ou vendus aux peuples étrangers. Jésus avait été estimé 30 deniers. On donnait alors 30 juifs pour un denier. Et là, une petite note de l'abbé Weber, du chanoine Weber, dans son livre « Les quatre évangiles en un seul ». Dispersé dans le monde entier, ce peuple porte partout le stigmate du déicide. Il n'a pas voulu la bénédiction, la malédiction l'accablera. Le sang du calvaire ne cessera de retomber sur lui et sur ses enfants. En dépit de toutes les causes de destruction, il traversera siècles et peuples sans disparaître et sans se fondre. Cette race ne peut périr, il faut qu'elle dure pour expier son crime, jusqu'au jour où ses yeux s'ouvriront pour reconnaître et adorer le Dieu qu'elle a rejeté et crucifié. Ils verront, videbunt in quem transfixerunt, ils observeront, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Voilà, nous avons bien avancé dans ce début du chapitre 21 de Saint Matthieu. Si Dieu veut, nous continuerons la semaine prochaine. Donc je vous conseille beaucoup, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, après ces cours, de relire une nouvelle fois les pages 1, 2 et 3 du polycopier, justement pour bien mettre toutes ces choses dans votre intelligence et dans votre mémoire. Nous allons terminer avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.